Alors déjà, l'ASPA, c'est une asso qui a un peu plus de 40 ans et qui agit de trois façons pour préserver les animaux sauvages et les milieux naturels. Par le combat juridique, on essaie de créer de la jurisprudence, faire évoluer le droit de l'environnement. Par de la mobilisation citoyenne et de la sensibilisation pédagogique, on crée des outils pédagogiques qu'on met à disposition des enfants. Et le troisième levier, en fait, c'est l'acquisition foncière pour créer des réserves de vie sauvage. Et sur ces zones-là, en fait, on va mettre en place un concept qui s'appelle la libre évolution et qui sera le fil directeur et le maître mot du type de gestion qui sera fait, pratiqué sur ces sites.
Vous avez des hectares de forêt en France, justement, que vous avez acquis. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut juste s'y balader et contempler peut-être un animal ou bien les arbres. Voilà, c'est tout.
Alors, on parle beaucoup des forêts parce que c'est ce qui est le plus symbolique, parce qu'on sait très bien que protéger des forêts, ça aide à lutter aussi contre le réchauffement climatique. Mais notre action se tourne aussi sur d'autres types de milieux, comme des points d'eau, des zones humides, dans les 1225 hectares qu'on a aujourd'hui, qui sont répartis sur 5 sites en France. Il y a une zone qui s'appelle les deux lacs, parce que cette zone est composée de deux lacs, par exemple. Mais c'est aussi important de préserver des falaises, enfin tout type de milieu, dont les forêts. Et dans ces milieux-là, donc ce qu'on appelle les réserves de vie sauvage, les gens vont être invités à venir se balader, contempler, faire de l'observation, être en immersion dans la nature, sans contrainte, sans risque de se prendre une balle de chasse perdue ou un accident ou quoi que ce soit. Et donc, on va limiter tout l'impact qui serait négatif sur les milieux, c'est-à-dire que la chasse est interdite, la coupe de bois, la pêche. Et après, on va créer aussi d'autres types d'interdictions, plutôt par précaution que par principe. Par exemple, on va interdire la cueillette, non pas parce qu'on est fondamentalement opposé à la cueillette, mais tout simplement parce qu'on ne peut pas savoir si c'est une personne, 10 personnes, 100, 1000 ou 3000 qui vont venir se balader et prélever quelques fleurs, champignons. Donc par précaution, et simplement par précaution, on va interdire ces types de pratiques, notamment la cueillette sur ces zones-là.
Vous êtes une association qui achète des hectares. Comment financez-vous ces achats?
Alors en fait, l'ASPAS, dès sa création, dès le début, a choisi de financer sans subvention publique pour garder sa totale liberté d'action, de ton, de parole. Donc ça lui donne une force assez importante parce qu'en fait, on ne doit rendre de compte finalement, j'allais dire à personne, mais si, à nos membres, aux personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Finalement, c'est au grand public, c'est aux citoyens qu'on rend des comptes et pas à un élu, pas à un conseil départemental. Donc l'ASPAS fonctionne sans subvention publique, donc ses ressources financières, ce sont les dons de privés. Et uniquement ça, et une petite activité de vente de produits éthiques et qui vont dans le sens de notre objet. Mais en fait, 90% des ressources de l'association, c'est le don de monsieur et madame tout le monde et toute catégorie socio-professionnelle, tout budget. En fait, on touche vraiment un public très large.
Vous m'avez parlé de sensibilisation comme une de vos trois missions, j'imagine que la vie d'un arbre, c'est long, ça peut aller au-delà des 100 ans. Donc comment est-ce que vous faites pour toucher le grand public?
Alors le grand public, on va le toucher essentiellement par nos campagnes un petit peu de communication, de sensibilisation. On va essayer de toucher les adultes par des actions, de la mobilisation citoyenne. Par exemple, on va essayer de faire des événements en ville, mais on va surtout créer des outils où on va essayer de mettre en avant l'importance, la beauté, le rôle, pourquoi toutes les espèces qui sont sur Terre, les faunes sauvages, est importante. Et après, on va décliner à peu près les mêmes types d'outils, mais pour les enfants, avec un langage adapté. On va créer ces outils et on va les offrir à toutes les écoles, toutes les bibliothèques, les MJC, les éducateurs, tous ceux qui ont envie de sensibiliser les enfants. Nous, on va offrir gracieusement tous ces outils qu'on aura créés pour eux.
C'est-à-dire que vous avez l'accord de l'éducation nationale?
On n'a pas une convention ou un agrément avec l'éducation nationale, mais on a des enseignants qui, dans le cadre de leur programme scolaire, disent ah « bah tiens, moi cette année, je dois étudier la vie des animaux dans les forêts. » La personne va nous demander notre kit qui parlera, par exemple, du loup ou du renard. Et on va essayer d'amener la discussion tant sur un plan biologique, parce qu'on va donner des informations sur qui est cet animal, comment il vit, mais aussi sur, par exemple, la place de ces animaux dans la littérature ou dans nos usages au quotidien, dans la cohabitation. Et voilà. Et donc, en fait, c'est un outil qui peut servir pour plusieurs matières aussi pour les enseignants.
Votre troisième mission, c'est le juridique. Un procès pour nous donner une idée?
Donc régulièrement, on va attaquer des arrêtés préfectoraux ou ministériels qui autorisent, par exemple, une pratique de chasse sur un certain nombre d'animaux ou dans certains temps, par exemple la chasse de nuit ou du piégeage ou l'abattage de loups. On va les attaquer pour essayer de faire interdire ces pratiques-là. Mais on va aussi essayer de déposer des propositions de loi. On va travailler avec les parlementaires, les sénateurs et les députés pour dire, par exemple, la vénerie sous terre qui consiste à aller déterrer un blaireau au fond d'un terrier. Ça, aujourd'hui, dans notre société évoluée, où on reconnaît la sensibilité des animaux, c'est une pratique qu'il faut interdire. Donc là, on essaie de faire avancer les textes pour que cette pratique soit simplement interdite en France.
Dernière question. Bon, la forêt, vous la voulez comme un espace de liberté. La forêt, on sait que c'est un puits de carbone, donc que ça nous aide au point de vue de la qualité de l'air. Mais vous, en fait, finalement, vous essayez de lutter pour notre qualité de vie?
En fait, on essaie de lutter dans le cadre de la sixième extinction de masse qui est en cours et qui galope et qui risque de ne pas s'arrêter si on ne fait rien. Préserver ces territoires, c'est permettre en fait aux vivants, plus largement possible, que ce soit les milieux et les animaux, ça leur permet de vivre librement et de recréer ce qui est essentiel aujourd'hui pour notre survie, des fonctionnalités. C'est-à-dire que les milieux pourront fonctionner complètement pleinement que si on arrête de vouloir gérer, cadrer, décider pour la nature, si c'est tel arbre qui doit pousser, si on doit tuer tant d'animaux. Voilà, là, ces zones-là, on va laisser les milieux se ressourcer et nous offrir tout ce qu'il peut nous offrir. Et c'est un peu la garantie de notre survie sur cette planète.
Oui, mais alors vous éliminez l'exploitation du bois, par exemple. On parle beaucoup de ces métiers nouveaux. C'est peut-être une chance d'emploi.
C'est pas parce qu'on va décider de mettre certaines zones en libre évolution qu'on dit qu'ailleurs, il ne doit plus rien y avoir non plus. En fait, ce qu'on cherche à faire, nous, ce sont des petites zones où on va laisser en libre évolution. Mais il faudrait qu'autour de ces zones et en lien et en collaboration, on s'efforce aussi de développer des types de foresterie douce. Il y a le réseau alternatif forestier qui fait ça très bien, c'est-à-dire qui vit en cohabitation avec la forêt. Il y a de la coupe de bois, il y a des écoles dans les bois, il y a des gens qui ont un usage doux des milieux, il y a des agriculteurs qui accueillent la biodiversité et la vie sauvage dans leurs fermes. En fait, c'est ce type de pratique-là qu'il faut aussi pousser et encourager en même temps que créer des zones de libre évolution.
Un exemple de cette agriculture respectueuse des forêts ou de la biodiversité?
Alors il y a un exemple qui est magnifique et d'ailleurs le paysan, l'agriculteur a fait l'objet d'un petit film sur lui. C'est la ferme du Grand Laval qui est dans la Drôme, par exemple. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances naturalistes et il va faire planter certains types de fleurs ou d'arbustes en lien avec ses besoins à lui de production, par exemple de ses vergers où il a des poules, où il a aussi quelques moutons. Et en fait, il va faire cohabiter tout ce petit monde et en même temps, il va mettre des nichoirs, il va creuser des mares. Comme ça, en fait, ça va être un lieu de vie où tout le vivant va s'apporter et être en collaboration et en cohabitation parfaite.